Merci pour cet exposé passionnant. Vous venez de faire référence au livre de Bisson, qui vient d'être traduit en français, aux belles lettres, qui a pour titre « La crise du XIIe siècle », et qui est vraiment un très grand livre sur la naissance de la responsabilité politique. On ne peut pas discuter tout votre exposé. Laissons de côté ce qui a trait, je dirais, à la constitution de votre corpus, à son traitement direct, pour examiner des questions plus générales. En introduction, vous avez cité Michel Foucault en insistant sur le lien, en tout cas pendant cette période, entre la notion de gouvernement de soi et gouvernement des autres, c'est-à-dire de gouvernement tout court. Mais en fait, c'est ce lien entre l'idée de gouvernement et celle de la capacité à se gouverner soi-même, ça va être une vision qui va s'étendre, je dirais, jusqu'à la période de Machiavel. Parce que du début du Moyen-Âge jusqu'à la Renaissance, enfin jusqu'au triomphe de l'idée de raison d'État, ce lien entre la capacité à gouverner et le fait de se gouverner moralement soi-même va être le grand schéma général. Alors, à l'intérieur de ce grand schéma général, il y a évidemment des ruptures et des changements. Et c'est ça qu'il est intéressant de voir. Et donc, revenons un peu sur cette question du passage aux enquêtes réparatrices, aux enquêtes réformatrices, sans parler pour l'instant de l'enquête. Nous y reviendrons après. Quel est, au fond, le point central de distinction entre Louis IX et Philippe le Bel, du point de vue de ce rapport entre gouvernement moral de soi-même et gouvernement du pays? Ce qui me frappe, c'est que dans toute la vision réparatrice et liée au salut de l'âme et la comptabilité très précise qui est faite chez Louis IX, il y a au fond une vision qui est essentiellement une vision individuelle. Il n'y a pas du tout une théorie de l'État. On a discuté il y a 15 jours avec Patrick Boucheron, et bien sûr, les vertus théologales étaient mises en avant à Sienne, mais ces vertus théologales, elles étaient en quelque sorte ordonnées à une vision du bon gouvernement en général. Ce qui me frappe, c'est que Louis IX n'a pas de théorie du bon gouvernement. Il a une théorie de la justice, il a une théorie du salut de l'âme, il n'a pas une théorie générale du bon gouvernement, ce que va avoir Philippe le Bel. Et comment vous expliquez justement le fait que c'est avec Philippe le Bel, à ce moment-là, que va naître que va vraiment se développer cette littérature des miroirs des princes? Parce que les miroirs des princes, c'est justement la littérature qui fait le lien entre une philosophie politique et un art de gouverner, et puis le suivi de vertus chrétiennes. Alors qu'il n'y a pas du tout cette littérature du temps de Louis IX. Et donc, à l'intérieur d'une même vision du rapport entre l'idée de gouvernement et le gouvernement de soi-même, la rupture, est-ce que ça n'est pas justement une vision chrétienne totalement individualiste, et puis une vision chrétienne qui va être ordonnée à... vous avez employé le mot de pontification, mais ordonné à une vision, ce n'est pas simplement l'opposition de l'ordre mendiant et de la papauté, c'est l'opposition de l'organisation de l'universel à l'organisation simplement de la conduite personnelle. Donc comment vous expliquez les termes de cette rupture? Est-ce qu'au fond, c'est Louis IX qui fait exception? Est-ce qu'il fait exception à cause de la période dans laquelle il se trouve, de son départ en croisade, qui donc a précipité cette vision réparatrice et cette comptabilité morale? Ou bien vous voyez l'exemple d'un espèce de paradigme qui n'est pas simplement lié à Louis IX lui-même, mais un paradigme qui serait lié à l'histoire capétienne, disons, en général?
Il y a plusieurs éléments de réponse à apporter à votre question. Tout d'abord, le royaume de France n'est pas du tout le même sous Louis IX et sous Philippe le Bel. La souveraineté est encore en construction sous Louis IX, puisque, il y a véritablement une crise de croissance du royaume de France à l'époque du grand-père et du père de Louis IX, et qu'on n'est pas encore capable d'intégrer correctement ces provinces nouvellement acquises, dans lesquelles il y a des révoltes et dans lesquelles les gens sont très loin de se sentir les sujets du roi de France. Et en fait, l'image qu'on a de la sujétion, souvent, est celle qui est héritée du grand siècle et de ce pouvoir absolu de Louis XIV, une sorte de souveraineté évidente, le roi est roi, et les sujets sont ses sujets. Et ce qu'on perd de vue, c'est que cette sujétion, elle s'est construite au Moyen-Âge et qu'elle s'est construite justement à partir du règne de Philippe Auguste. Et que pour que les sujets se reconnaissent que les sujets se reconnaissent comme sujets du roi de France et non pas comme sujets du comte de Toulouse ou du vicomte de Béziers, il a fallu les convaincre qu'ils avaient intérêt à se reconnaître les sujets du roi de France. Puisque une des mamelles de la gestion de l'État moderne, de la genèse de l'État moderne, c'est l'armée. À l'époque, on n'a pas la guerre, on n'a pas l'armée, donc ce n'est pas la force qui permet de le faire. Et donc je pense que ce projet réparateur, c'est aussi un projet qui est une façon de convaincre les populations d'adhérer au projet royal. Et une fois que les sujets se seront véritablement reconnus comme sujets du roi de France, ils accepteront, par exemple, d'être imposés par Philippe le Bel. Donc la France de Louis IX et la France de Philippe le Bel, en termes de construction de la sujétion, qui est un premier temps avant la construction de l'État, n'est pas du tout la même. Et puis, ensuite, bien entendu, il y a des théories politiques qui ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Philippe le Bel se retrouve enfin un roi puissant avec des sujets qu'il peut imposer généralement, le modèle qu'il va revendiquer pour sa royauté est celui de la théocratie pontificale. C'est-à-dire qu'il va se chercher un modèle d'imitation qui est celui du pape. Et on a donc le recours à des procédures très, très souveraines. Par exemple, l'enquête est directement menée d'office par le pouvoir royal qui décide de mener de vastes enquêtes, non plus pour réparer des torts, mais pour réformer une administration. Donc on a vraiment un changement qui est essentiel. Et enfin, je verrai un dernier élément qui est cette croisade permanente, qui est cet idéal complètement anachronique qu'il y avait Louis IX pour la croisade et qui pousse en fait à l'administration à s'organiser. Il y a énormément de mutations administratives extrêmement intéressantes qui s'observent à cette époque-là, puisque le roi est souvent absent, le roi a besoin de fonds, a besoin de liquidités, a besoin de consentement, mais qui est totalement absente ensuite sous le règne des derniers capétiens qui vont totalement délaisser c'est ce projet de croisade qui était en fait le grand projet du règne de Louis IX, comme l'a bien montré Jordan dans son ouvrage, qui était vraiment le moteur de ce règne, où périodiquement il fallait rassembler toutes les énergies et financières et morales du royaume pour le départ à la croisade. Et avec Philippe le Bel, on est vraiment dans l'idéal du bon gouvernement. Et enfin, si vous permettez, autre référence très importante, c'est que sous Louis IX, il y a bien entendu une mobilisation du droit romain qui est forte, mais qui n'est pas tout à fait aussi importante que sous Philippe le Bel, dans lequel véritablement la rhétorique employée au droit romain, la res publica, l'utilité publique, va véritablement être mobilisée au bénéfice du pouvoir royal.
Pourtant, il n'y a que 15 ans entre la mort de Louis IX et puis l'arrivée au pouvoir de Philippe le Bel. Donc 15 ans, ça n'est pas très long. Donc pour expliquer cette rupture, on ne passe pas tout d'un coup d'un royaume qui est simplement dans une jeunesse lointaine à tout d'un coup un État souverain constitué. Autant je crois que l'explication que vous donnez de l'abandon du projet de croisade, ça introduit une rupture absolument, certainement une rupture absolument fondamentale. Mais la rupture, elle est aussi d'ordre théologique. C'est-à-dire que ce soit Philippe le Bel ou que ce soit Louis IX, ce sont des souverains qui vivent entourés de moines, entourés de séculiers. Mais seulement, ça n'est pas les mêmes, effectivement. Et est-ce que la... c'est en quelque sorte la défaite, si je puis dire, des ordres mendiants qui, pour vous, relative, expliquerait ce changement dans la vision de la gouvernementalité qui est quand même très, très important.
Alors ce qu'il faut rappeler tout d'abord, c'est que les ecclésiastiques ne sont pas que l'entourage du roi, ils sont également le personnel administratif, le personnel de gouvernement du roi, puisque, bien entendu, les rois de France se sont d'abord tournés vers ceux qui savaient lire et écrire et qui avaient une formation universitaire, donc les clercs. Donc il est impossible de dissocier l'Église, finalement, du pouvoir royal en ces époques médiévales. Ce sont souvent les mêmes hommes. Mais vous avez totalement raison. Ce qui change également avec Philippe le Bel, c'est l'avènement de ceux qu'on a appelés les légistes, et qui, dans l'entourage du roi, étaient des clercs qui étaient formés, cette fois-ci non plus au droit théologique, mais plutôt au droit romain, et qui ont permis en fait, d'enrichir le discours politique et le discours public du roi, puisque bien entendu, vous avez raison, il n'y a pas d'un seul coup un État qui serait constitué sous Philippe le Bel. On a par contre un souverain qui proclame qu'il est souverain en son royaume et que l'État est né. Bien entendu, la réalité est sur le terrain est bien, bien différente. Et sous Louis IX, en effet, on a un amour de ce roi, mais également de sa sœur. Hein. Il faut penser que la sœur de Louis IX a quand même fondé l'abbaye de Longchamp, qui est une abbaye de mineurs. On a un véritable amour pour ces ordres mendiants qui sont une grande nouveauté, puisqu'ils viennent en fait d'apparaître quasiment au début du, un peu avant la naissance de Louis IX. Et donc, on a cette tentative du pouvoir royal de comprendre cette nouvelle théologie mendiante qui est la grande nouveauté du XIIIe siècle, qu'on ressentira moins par la suite. C'est très net, par exemple, pour les enquêtes, c'est-à-dire que Louis IX et son frère vont employer tous les deux des frères mendiants pour leurs enquêtes de réparation. Mais Alphonse de Poitiers, comme je le disais, aura tendance à se dire que le salut de l'âme, c'est une chose, mais la gestion des domaines, c'est également très intéressant. Il va donc se servir des mendiants pour mener ces doubles enquêtes, qui sont et des enquêtes finalement domaniales et des enquêtes de réparation, jusqu'à ce que finalement Humbert de Romans, qui est l'autorité le provincial de la province de France, interdise à ses frères, désormais, de mener des enquêtes pour le roi de France et pour Alphonse de Poitiers, car elles sont considérées comme des offices odieux, officia odiosa. C'est-à-dire que là, véritablement, c'est l'ordre mendiant lui-même qui va sonner la fin de la récréation et qui va dire « rentrez dans vos couvents, si vous voulez faire de l'enquête, faites-le pour la grande enquête qui est l'Inquisition, mais cessez de vous dévoyer auprès des princes qui, en fait, vous utilisent à des tâches qui ne sont plus purement charitables, mais qui sont également des tâches très, très laïques. »
Effectivement, c'est avec Philippe le Bel qu'on voit le début de l'usage de la formule selon laquelle le roi est empereur en son royaume. Effectivement, ce qui va complètement changer, c'est l'idée que le royaume a pour but de réaliser un universel limité. Et qu'au fond, on peut dire que c'est ça qui marque le début de l'État-nation, c'est cette vision de l'universalisme qui enfin peut prendre un visage concret, alors que jusqu'à maintenant, il avait été une grande ambition, un grand idéal, mais sans pouvoir s'incarner véritablement. Enfin, en tout cas, c'est pour cela que les États-nations naîtront à la périphérie, si je puis dire, du Saint-Empire romain, Saint-Empire romain germanique. Mais pour revenir encore une seconde à cette distinction entre Louis IX et Philippe le Bel, une des caractéristiques, vous avez parlé des légistes, mais ces légistes, beaucoup aussi, étaient des grands théologiens. Des grands philosophes, c'est-à-dire qu'on ne peut pas séparer le nom de Philippe le Bel, par exemple, de tout le travail théologique de Gilles de Rome. Gilles de Rome a joué un rôle très grand en écrivant son grand livre sur le régime des princes, dans lequel il modifie quand même le regard que l'on portait sur ce qu'est le bon gouvernement. Un peu plus tard, mais enfin, ça, tout de même de cette période, ce sera l'œuvre monumentale de Marcille de Padoue. Marcille de Padoue qui va donner les moyens de penser de façon très neuve et très laïque le pouvoir en laïcisant, en quelque sorte, beaucoup d'images religieuses auparavant. Et au fond, tout ce milieu de théologiens, de philosophes que l'on va retrouver dans le monde capétien à partir de Philippe le Bel, effectivement, une grande partie d'entre eux ont d'abord été dans l'entourage papal. Et au fond, ils se convertissent, en quelque sorte, au service de l'État.
Et on retrouve bien la distinction que vous aviez faite entre le gouvernement de Louis IX et son amour pour les mendiants, puisqu'en fait, les deux grands noms, finalement, qui ont pu, à cette époque-là, compiler une sorte de savoir politique et ont eu une influence politique sur Louis IX, c'est Thomas d'Aquin et Vincent de Beauvais, qui sont tous les deux issus des ordres mineurs. Donc on a en effet même une histoire intellectuelle qui change.
Oui, et puis Thomas d'Aquin lui mettra surtout l'accent justement sur le bon pasteur, et donc sur les qualités morales du bon pasteur, plus que sur la finalité politique de l'entreprise. Peut-être qu'on pourrait maintenant en venir à ce qui était tout de même l'essentiel de votre thèse, c'est la signification et le rôle des enquêtes. Ce que je trouve très intéressant dans votre travail, c'est que vous avez bien insisté sur deux dimensions de l'enquête, c'est que l'enquête est à la fois un outil de gouvernement, mais que l'enquête aussi, elle instaure une relation. C'est que le propre de l'enquête, c'est d'instaurer une relation entre l'enquêté et l'enquêteur. L'enquêteur étant aussi au service du roi, bien sûr. Mais elle est directement un outil de gouvernement. Et cela, ça le restera. Si on dit que l'enquête est une relation et que l'enquête est un outil de gouvernement, on peut donner une double définition qui est presque valable jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que si vous prenez Jean-Claude Perrault, par exemple, a beaucoup étudié les mouvements d'enquête de la période consulaire, ou au début de l'Empire. Et il insiste sur ces deux dimensions. C'est enquêter, ça devient un instrument de gouvernement parce que d'abord il y a la dimension de connaissance, mais aussi qu'on fait participer à l'enquête, on implique dans le pouvoir toute une population. Ce sera le cas aussi des grandes enquêtes du 19e siècle. Et donc là, on voit ce qui est très intéressant dans votre travail, c'est qu'on voit naître en quelque sorte les éléments d'un modèle. On voit naître les éléments d'un modèle, mais ce modèle, bien sûr, il a ses spécificités parce que l'État n'existe pas encore, à cause de la dimension de réparation aussi. Et vous avez dit une chose très juste et très importante, c'est que l'enquête était un substitut, en quelque sorte, à la présence du roi. Mais peu de temps après, enfin un siècle et demi après, on verra les souverains commencer justement à penser qu'il est très important de faire des tours de France. Et que les tournées et les visites royales auront la même finalité. Et théorie d'ailleurs que reprendra presque mot pour mot Napoléon III, qui sera au XIXe siècle celui qui aura le plus voyagé pour faire que le souverain soit proche des gens. Donc je trouve que dans ce modèle avec ces trois caractéristiques, l'enquête comme relation, l'outil de gouvernement et puis le substitut à la présence, on a en quelque sorte là l'enquête comme le centre du pouvoir, en quelque sorte. Le centre du pouvoir, mais en même temps le centre du pouvoir qui se reconnaît comme responsable à travers cela, mais en même temps de la prise de pouvoir de l'enquêté aussi. Parce que c'est l'enquêté ou celui qui a déposé une plainte là, dans ce cas-là, qui retrouve une importance sociale, qui retrouve une dignité, qui retrouve en quelque sorte, qui accède à une forme, disons, de pré-citoyenneté d'un certain point de vue. Donc, est-ce que vous pensez véritablement que ces enquêtes, donc, avec ces spécificités de réparation à l'époque, sont la véritable naissance d'un modèle, ou bien que l'on reprend là une vieille, une tradition encore plus ancienne, une tradition non pas médiévale, mais une tradition romaine, où il y a un travail de recensement dans lequel se crée à la fois de la suggestion et en même temps de la reconnaissance sociale.
Oui, tout à fait. L'enquête est véritablement un outil entre les mains du souverain pour très simplement se faire aimer quand il s'agit ici de venir dénoncer les abus de l'administration, et non seulement de les dénoncer, mais d'espérer avoir réparation de ces abus, et la meilleure des réparations, qui est la réparation sonnante et trébuchante, la réparation financière. Donc il y a plusieurs jalons entre le pouvoir romain et Louis IX. Il ne faut pas oublier les Missi Dominici qui avaient été envoyés par les Carolingiens. Mais en fait, finalement, il n'y a de possibilité véritablement d'enquête générale, de grande enquête, que quand on a un royaume suffisamment étendu et qui a justement une sorte de vocation universelle. Donc ici, on a ces premières grandes enquêtes qui ont en effet plutôt convaincu, je pense, les sujets du roi de France. Puisqu'en fait, cette première procédure n'était pas destinée... On avait, par exemple, les seigneurs localement faisaient déjà des enquêtes qu'on appelait des aveux de droit, où en fait, les paysans devaient venir devant le seigneur pour avouer les terres, confesser les terres et les droits qu'ils devaient au seigneur. Et donc, on était finalement dans une vision assez coutumière, féodale, du pouvoir, comme simplement... l'organisme qui régente toute la vie. Et ici, on demande quand même en effet une sorte de participation au sujet, puisque cette fois-ci, le sujet, même si sa parole est contrainte, il a droit de venir incriminer le roi et ses officiers. Donc on n'est pas simplement sur l'aveu d'une domination, on est aussi plutôt sur l'aveu d'une suggestion, c'est-à-dire également d'une participation et parfois d'une contestation de ce qu'on peut penser être le bien commun. Puisque certains des sujets, par exemple, les communautés villageoises vont venir pour réclamer des baisses d'impôts parce qu'elles trouvent que leur imposition n'est pas la bonne. Et derrière, on peut courir au XIVe siècle avec la révolte des Tuchins qui va se révolter pour un bon usage de l'impôt. Donc en effet, on voit ici en germe ce recours à la parole des sujets et cette... remise en possession d'une sorte de pouvoir, au moins de contestation et d'action qui est orchestrée par le roi de France, bien entendu, est très limitée, mais qui est là.
Ça veut dire aussi que c'est en quelque sorte la naissance d'une fonction parlementaire, au sens propre du terme. Et d'ailleurs, l'enquête restera de façon continue un élément constitutif du pouvoir parlementaire. Et on peut dire qu'au XIXe siècle, au moment où le pouvoir parlementaire, je dirais, prend toute son ampleur, le pouvoir d'enquête parlementaire est le cœur de la fonction parlementaire. Donc, indépendamment de la représentation, de la fonction de représentation, cette fonction d'enquête a été en quelque sorte le premier élément qui constituait d'une certaine façon le rapport entre le souverain et les sujets, qui avait une dimension d'ordre parlementaire. L'autre fondement du Parlement, c'est tout de même justement la justice. C'est que le Parlement, initialement, une cour de justice, et pas simplement une cour représentative. Donc là, ça fait une différence assez grande.
Et c'est précisément sous Louis IX que le Parlement de Paris va être fondé. Il avait déjà une existence, puisqu'une partie de l'activité de la cour du roi était de juger des litiges. Mais ici, ce qui est particulièrement intéressant, c'est de voir comment Louis IX se sert justement de cette procédure d'enquête, l'inscrit au cœur même de son Parlement, pour finalement devenir une cour d'appel de litiges qui auront pu intervenir entre des seigneurs et ses sujets. Et c'est comme ça que progressivement, on a une justice souveraine qui va s'établir, et qui va s'établir en mettant en son cœur l'enquête, c'est-à-dire une procédure qui recourt à des témoins, une procédure qui nous semble, à nous en tout cas, coutumière, moderne, puisqu'aujourd'hui c'est comme ça qu'on démontre encore la vérité par le recours de témoins. Et c'était une manière en fait de montrer que la justice du roi était au-dessus de celle des autres, mais qu'elle était au-dessus de celle des autres parce qu'elle était équitable et qu'elle était efficace. Donc on a véritablement dans le projet politique de Louis IX cette volonté d'insérer l'enquête, cette procédure juridique au cœur de toutes les nouvelles institutions qui sont fondées par le roi. Et le roi va interdire également dans ses tribunaux, c'est-à-dire les tribunaux de tous ses officiers, les prévôts et les baillis, le recours au duel judiciaire, avec bien entendu à cette époque aucun résultat, puisque le duel judiciaire c'est véritablement une manière de prouver son fait qui est très apprécié par les nobles et une partie de la société. Mais on a vraiment cette volonté en fait de promouvoir une justice équitable et de se doter d'instruments qui permettent en effet de la rendre équitable et donc désirable par les sujets.
Et un élément de ce caractère équitable et désirable, c'est le caractère collégial. C'est-à-dire que le Parlement, c'est justement un collège, ce n'est pas simplement une personne qui décide. Et donc le renforcement de l'équité est aussi produit par cette dimension collégiale du Parlement et des premières cours de justice. Une chose qui est frappante dans votre travail, c'est que on ne voit pas la façon dont un discours sur la monarchie se ressaisit des résultats de ces enquêtes. Parce qu'après tout, ces enquêtes, elles ont été retrouvées, si je puis dire, au XIXe siècle, et vous en avez fait le récit. Mais il n'y a pas de mise en récit par la monarchie de ce travail d'enquête. Comment vous l'expliquez ? Parce que si on vous lit rétrospectivement, ça paraît étrange qu'il n'ait pas fait ce travail.
En fait, il y a vraiment un moment Saint-Louis, cette expérience de gouvernement qui est la réparation, qui va véritablement être escamotée par ses successeurs, et notamment par Philippe le Bel, au profit de la réformation. Justement, dans cette grande lutte qui a opposé le roi de France au pape, qui lui avait menacé de le réformer lui-même, on se demande bien ce que ça veut dire, et son royaume à sa place. Et du coup, bien entendu, le roi ne pouvait plus se présenter dans la posture de l'accusé. Il était accusé par le pape, il n'allait pas encore reconnaître en effet qu'il avait péché contre ses sujets, ce que Louis IX n'avait aucun mal à faire, puisqu'en fait, il pensait véritablement qu'être un bon chrétien, c'était être un bon roi. Donc on a déjà cette distinction fondamentale, c'est que les enquêtes qui seront menées par les derniers capétiens n'accusent plus le roi en personne. On accuse les officiers qui sont responsables de tous les maux. On est là en fait à cette grande rupture qu'on va pouvoir suivre jusqu'à la Révolution française, entre eux, le roi est bon, mais ses officiers sont mauvais. Alors que Louis IX disait « je suis également coupable ». Donc il y a cette dimension qui est très très importante, cette dimension de la responsabilité personnelle du souverain.
Oui, il est vrai qu'avant la Révolution, beaucoup de livres insisteront sur le thème « Nous gémissons sous le despotisme ministériel
oui. ».
C'est le despotisme ministériel que l'on critiquera et pas du tout le despotisme du roi. Mais ça veut dire une chose très importante, ça veut dire que le roi n'est pas responsable, ça veut dire qu'il a une fonction. Et que le roi, effectivement, n'est pas une personne. C'est ce que disait déjà Louis XIV. Nous ne sommes pas une personne, mais nous sommes le public. Donc ça, c'est une différence importante. Je voudrais terminer par un point qui était très présent à la fois dans votre thèse et dans votre exposé, c'est la façon dont l'organisation de ces réparations était aussi une façon de construire le territoire royal. C'est-à-dire qu'on rendait 10% de quelque chose pour solidifier les 90% que l'on gardait, quoi, d'une certaine façon. Et vous avez cité au début de votre thèse ce qui appartient à la tradition normande, en tout cas à l'époque, du Domesday Book, c'est-à-dire Guillaume le Conquérant. Une des grandes innovations qu'il a amenées dans le gouvernement de la Normandie, c'est Guillaume le Conquérant a mis en place cette espèce d'enquête cadastrale, si l'on peut dire, qui a joué un rôle décisif. Et là, on a le sentiment qu'au fond, à travers ces enquêtes de réparation, il y a de façon détournée, mais exactement le même but qui se met en place. C'est que c'est la façon de construire des éléments de cadastre. Si j'ai bien compris, vous avez fait votre maîtrise sur ce sujet-là, en Picardie. Mais là, dans ces territoires nouveaux, si je puis dire, c'est ce qu'on organise. Donc, d'une certaine façon, la puissance royale s'organise aussi par la constitution, je dirais, de la propriété, la constitution cadastrale de la propriété. Est-ce que vous pourriez, en conclusion, nous en dire un petit peu plus sur ce point-là, qui est très important, je trouve ?
Eh bien, ce qu'on permet de montrer mes analyses sont, finalement, je me suis intéressée aux ressorts territoriaux dans lesquels l'enquête avait été organisée, et dans un premier temps, le roi est bien contraint de se saisir du seul territoire qui est commun à tout le royaume, et qui est facilement mobilisable, et qui sont les diocèses, puisque son royaume est avant tout divisé en diocèses avant d'être divisé en bailliages. Ça reste très très théorique, les ressorts administratifs de l'époque. Et en fait, justement, cette volonté d'envoyer des enquêteurs dans toute la France va permettre progressivement, en tout cas dans un premier temps, d'activer ces ressorts territoriaux. Donc pour l'instant, ils ne sont pas véritablement encore effectifs, mais en tout cas, dans le pouvoir, dans le discours du pouvoir royal, il va enfin pouvoir dire que le pouvoir royal domine une somme de bailliages, une somme de ressorts territoriaux propres au pouvoir royal et non pas des ressorts territoriaux religieux. Il va servir des ressorts territoriaux comme d'un point de départ. Et bien entendu, ce qui est remarquable dans ces enquêtes, c'est qu'on est, comme je l'ai dit, face à la première investigation lancée à l'échelle du royaume de France tout entier. C'est la première fois qu'un monarque capétien a cette volonté, en fait, de toucher du même coup. En 1247, il envoie des enquêteurs dans tout son royaume. Et donc, cela montre véritablement qu'on commence à avoir une conscience qu'il y a un territoire qui est vaste, qui est accru, qu'il va falloir réticuler, qu'il va falloir organiser, qu'il va falloir réussir à dominer. Et cela passe en effet par la démultiplication du corps du roi à travers ses enquêteurs.
Merci, mais c'était vraiment un exposé passionnant. Je rappelle le titre de votre livre, Les enquêtes de Saint-Louis. Et la semaine prochaine, nous nous retrouverons avec Antoine Lilti, qui a récemment publié un livre sur la célébrité au XVIIIe siècle, pour parler de célébrité politique au siècle des Lumières.